Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Marianne Gossia, bonjour Isabelle Gilloire.
Bonjour Marc Zisman.
Alors vous êtes à la tête, vous êtes productrice du Musicora. Alors Musicora, ce n'est pas un nom tout nouveau, c'est un salon qui existe depuis des années, mais vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, de reprendre ce salon. Sans doute, j'imagine, pour montrer également la vitalité de la musique classique, dépoussiérer peut-être cette institution. Comment l'idée vous a pris, vous deux qui êtes associés dans une aventure qui s'appelle Sequenza, vous occupez d'artistes, de spectacles, de musique vivante, etc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'attraper par le col Musicora ?
Eh bien, vas-y, je te laisse répondre.
Non, mais je pense que c'est un coup de cœur et puis en fait une évidence complètement. C'est-à-dire que notre métier, notre vie est complètement liée à la musique classique depuis toujours. En tant que musicienne d'abord, mais ensuite en tant que professionnelle dans toute la filière, on va dire. Et il se trouve qu'on a appris que Musicora cherchait preneur, entre guillemets, et que cette marque allait peut-être s'éteindre. Et on s'est dit, bah voilà, nous on a une petite trentaine, c'est notre génération qui doit prendre
le flambeau.
Et puis voilà, c'est une très jolie marque, tout simplement, Musicora, qui m'a beaucoup apporté quand j'étais plus jeune, en matière de rencontres, en matière de connaissances précisément de cette filière. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une deuxième ou troisième vie à lui donner, avec une nouvelle dynamique, de nouveaux contenus. Et puis, voilà, je finis rapidement. Après, je vais laisser la parole à Isabelle. Mais je pense que c'est un outil de médiation incroyable, Musicora, qui est assez précieux dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est un intermédiaire entre la salle de concert, entre l'achat du disque, entre l'achat d'un instrument, entre l'apprentissage. Voilà, c'est les gens qui n'osent pas encore peuvent aller à Musicora et puis avoir une première expérience, je pense, musicale, sans trop de pression, sans la pression d'une salle de concert, sans l'impression aussi de se sentir pas assez connaisseur ou mélomane pour aborder ce domaine-là. Voilà.
Oui, puis l'idée, c'est que notre métier depuis toujours est de placer l'artiste au cœur de notre mission de communication et de production. Et là, l'idée, c'était de replacer aussi l'artiste au cœur du salon. Donc, on a travaillé un concept où l'artiste revient au cœur du salon et est présent à travers un certain nombre de manifestations, de concerts, d'événements, de débats, d'ateliers, de dédicaces et de rencontres avec le public, les professionnels de toute la filière musique classique.
Donc, je n'ai pas donné les dates. Donc, le salon aura lieu le 11, 12 et 13 mai,
oui.
Dans un nouveau lieu aussi qui est le Palais Brongniart, la bourse de voilà. Paris, comme on dit. J'imagine que quand on se lance dans une aventure comme ça, il y a le passif, c'est-à-dire ce qu'était ce salon. Vous l'avez évoqué sur ce qu'il représentait pour vous quand vous étiez plus jeune. Et il y a, j'imagine, la façon dont on veut effectivement le transformer, amener sa patte. C'est vrai que souvent, on reçoit à ce micro beaucoup, beaucoup d'acteurs de la planète classique. Et certains, et on se rend compte que c'est une planète qui est très vivante, des écoles au conservatoire en passant par les salles de concert. Mais on sent qu'effectivement, parfois, il y a un petit décalage avec une image qui peut être véhiculée par cette planète classique. Mmh. Est-ce que c'est aussi de montrer peut-être qu'un salon qui s'appelle Musicora peut être en phase vraiment avec la réalité et le côté vraiment vivant et pas quelque chose de poussiéreux ?
Oui, alors là encore, c'est un défi dans le sens où, voilà, on ne se sent pas complètement poussiéreuse encore et qu'on aime ça, évidemment, qu'on est passionné par ce domaine-là et qu'on rencontre, enfin, au travers de, précisément, de notre métier. On est beaucoup dans les salles de concert, on est beaucoup au contact du public, des artistes aussi, qui ne sont pas tous poussiéreux, qui sont de plus en plus, on va dire, jeunes, de plus en plus, précisément, dans un marketing même assez important en matière d'image. Et donc voilà, on se rend compte que c'est une économie, ça a été aussi un point de départ, c'est une économie assez importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, évidemment, le disque est peut-être le maillon faible, entre guillemets, mais le téléchargement prend le relais. Donc, pourquoi pas, enfin, c'est qu'une question de support. Les salles de spectacle sont pleines. Il y a de plus en plus de productions, de concerts. On croule finalement sous la quantité d'événements classiques. Il n'y a jamais eu autant de festivals. Enfin, voilà, donc on peut voir le mauvais côté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, mal... qui a une économie un petit peu difficile, mais malgré tout, il n'y a jamais eu autant de musique classique partout. Et ça a été un peu notre point de départ. C'est-à-dire, OK, il y a de la musique classique à la télévision, en publicité, malgré tout. Il y a aussi, tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de musique classique à la télévision, mais il y a de la musique classique partout. Il y a de la musique classique dès qu'on rentre dans un parc Vinci, on entend de la musique classique. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des marques, mais enfin, voilà, elle nous accompagne du matin au soir. Et notre défi, c'est de dire, OK... vous n'avez pas besoin d'être connaisseur, d'être mélomane pour apprécier à votre mesure. Et donc, tout ça est une question d'apprentissage, de temps. Et si à 25 ans, vous n'êtes peut-être pas le mélomane incroyable, bah, voilà, donnez-vous cette première initiation, cette première matière pour y arriver peut-être un peu plus tard, à 40 ou 45 ans ou 60 ans, parce que c'est peut-être un art qui demande aussi voilà, une attention et puis... qui correspond plus à des périodes de la vie, quoi, tout simplement.
Donc voilà, c'est du classique, mais connecté, parce qu'on laisse une grande place à tout ce qui est nouvelle technologie, voilà, lié au
téléchargement, puisque Colosse sera présent, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Mais aussi tout ce qui est télé sur le net, et voilà, de montrer comme quoi la musique classique peut être aussi voilà, connectée et à l'image de son temps. Thank you.
sont les personnes que vous voulez voir à Musicora? Vous avez parlé des musiciens, vous avez parlé des professionnels, vous avez parlé du public. Le but, c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. Est-ce qu'il y a une sorte de profil type de visiteur?
Il y a le mélomane averti, il y a le mélomane insoupçonné. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est de pouvoir attirer du public qui a peut-être des a priori ou des appréhensions par rapport à la musique classique et qui découvre que c'est accessible facilement. En fait. Voilà, l'idée, c'est ça, que le salon puisse amener des gens via le toucher, la pratique, la rencontre avec un instrument, un artiste, à la musique classique.
Donc le public pourra...
Voilà, et puis bon, je vais me permettre de faire un appel. Vraiment, c'est un outil. Enfin, je n'ai pas arrêté de rabâcher, quitte à me répéter, que c'était un outil fondamental pour précisément tous les acteurs professionnels, ce Musicora, qui devaient s'en servir. S'en servir avec leurs besoins. C'est un moment où il peut y avoir du public à leur disposition, il peut y avoir des professionnels à leur disposition, où il peut y avoir des médias à leur disposition. Et donc c'est à ce moment-là que ces professionnels, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient de partition, qu'ils soient facteurs d'instruments, voilà, il faut qu'ils préparent Musicora pour que ça soit réellement un outil qui les soutient et qui les aide à ce moment-là.
Oui.
Et ça, donc moi je dis, on va dire même à tous les musiciens aujourd'hui, mais venez à Musicora, faites vivre ce salon,
le devenir ce que vous avez envie qu'il
ouais.
soit.
Voilà, il est à vous quoi, ce salon. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je milite.
Vous avez des parrains prestigieux, comme on dit, qui vous aident dans ce militantisme.
Oui.
J'en cite quelques-uns: Michel Blanc, Renaud Capuçon, Henri Dutilleux, Benoît Dutertre, Didier Lecoud, Macha Makaïef, Dominique Meillard, etc. Mm-hmm. C'est aussi important justement d'avoir des relais un peu prestigieux qui...
Mais d'abord, il y en a beaucoup pour l'ensemble de ses parrains. Ils nous ont fait confiance tout de suite. Ils sont les premiers à nous avoir fait confiance et à avoir soutenu notre concept, notre démarche. Et déjà ça a été un point important pour démarrer l'aventure. C'est de savoir écouter et attendu, quelque part, avec ce nouveau Musicora. Je sais pas si tu veux...
Oui, et puis c'est des pères, entre guillemets, ou des mères spirituelles, dans le sens où, encore une fois, notre expérience n'est pas forcément aussi importante que tous ces gens-là. Et donc voilà, c'est beaucoup d'encouragement, ça représente énormément d'encouragement pour nous. Et oui, je rejoins ce que dit Isabelle sur la confiance, et puis... et puis le contenu de toutes ces personnes-là, hein, tout ce qu'ils représentent, chacun, même un monsieur comme Anthony Béchu qui est architecte, enfin voilà, c'est aussi des symboles assez importants pour chacune de nous, voilà.
Donc vous avez parlé de musiciens, artistes au cœur de Musicora. Quels sont les... On pourra donc entendre de la musique tant qu'à faire.
Bien sûr.
Donc il y aura des concerts concrètement, il y aura des...
Ouais. Alors ce qui est important, le choix du Palais Brongniart a été fondamental dans le sens où un des points importants qu'on voulait créer à Musicora, qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est un véritable lieu de concert. Parce que si on dit qu'on veut accueillir des artistes et que les artistes doivent être le cœur de ce salon, il fallait qu'ils soient dans un lieu capable de les accueillir correctement, qu'ils puissent jouer dans des véritables conditions, etc. Donc le Palais Brongniart a un grand auditorium de plus de 500 places, avec une acoustique plutôt très correcte. Donc dans ce lieu-là, il y aura, on va dire, une vingtaine de concerts. Donc là, on ne s'est pas posé comme programmateur, c'est assez important aussi. On l'a laissé un outil, encore une fois, à beaucoup de structures professionnelles qui avaient besoin ou qui avaient envie de valoriser tel ou tel artiste à ce moment-là, parce que c'était dans leur démarche, chacun était dans sa démarche, on va dire, artistique. Donc la SACEM programme, la Fondation Orange programme, des maisons de disques programme,
on a fait vice programme.
Voilà. Donc ils s'en sont servis comme outil, encore une fois. Et idem, alors le salon d'honneur, qui est un salon un peu plus petit, qui est de 120 places,
premier
qui est
étage.
Un très joli lieu de musique de chambre. Là, par contre, on a fait vraiment une programmation tremplin avec beaucoup de jeunes artistes pour qui c'est souvent leur première représentation. Et donc voilà, il y a des gens un petit peu du monde entier, il y a pas mal de gens de l'atelier lyrique, il y a des lauréats concours assez prestigieux. Et à côté de ça, des saisons comme Royaumont, comme le Festival de Saint-Riquier, qui viennent présenter en avant-première leur programmation au public. Donc c'est vraiment destiné au public, avec des interludes musicaux. Voilà.
Donc, pour résumer, c'est des concerts toutes les heures, à 10 euros seulement.
Ouais.
Puisque l'entrée du salon est à 10 euros pour le public.
Voilà, et puis il y a une large programmation pour le jeune public. Là aussi, c'est assez important.
C'est ce que je vais vous demander, justement.
Avec un lieu vraiment dédié.
Le village des enfants.
Le village des enfants. Et là, bon, il y a évidemment que des choses qui nous tiennent à cœur. Alors, je dirais... Une des choses qui me paraît fondamentale et qui était un peu le point de départ aussi de ce Musicora, moi, ce qui m'a toujours fascinée et intéressée, c'est l'origine du son. Voilà, toute personne qui rentre à Musicora, ou tout musicien, ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que ce fichu son qui fait cette si belle musique. Et donc, voilà, on a commencé par le B.A.B.A., c'est-à-dire à aller voir le Palais à Découverte, qui est un atelier exceptionnel à ce niveau-là. Et on a trouvé un accord avec eux, et ils le font d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme, donc de proposer des ateliers sur l'origine du son, avec tout ce que ça veut dire. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant, et c'est pour tous les âges. On l'a mis dans le pavillon du village des enfants, mais je pense que n'importe quel adulte qui rentre là-dedans va forcément sortir... Mmh. En se disant, bah oui, évidemment, si j'avais vu les choses comme ça, peut-être que mon idée de la musique serait différente. Voilà. Donc,
Toujours dans tout ce qui est extra-musical, il y aura des débats, des conférences, des tables rondes également.
Trois grands débats.
Voilà, donc trois grands débats. Là, c'est pareil, on voulait... c'est vrai que les universités populaires, entre guillemets, d'Onfray vont toujours un petit peu interpeller à ce niveau-là. Donc nous, c'est beaucoup plus... modeste, mais en disant, voilà, on peut aborder de manière publique quelques sujets qui peuvent passionner, évidemment, des gens un petit peu, voilà, qui ont déjà un pied dans la musique classique et qui sont intéressés par des sujets d'actualité. Donc,
la Philharmonie de Paris, avec Laurent Bell, premier grand débat. Tout ce qui est lié en deuxième débat, musique, mécénat et solidarité. Et troisième débat, les mises en scène à l'opéra, dans le cadre de Tous à l'opéra, puisque ce sera aussi le week-end. Tous à l'opéra. Donc, c'est un.
Voilà, donc présentation de la nouvelle philharmonie. Et puis l'Admical qui nous fait l'amitié vraiment de venir animer tout ce qui touche au mécénat et à la musique classique en termes de solidarité, sachant qu'il y a énormément d'initiatives à ce niveau-là, des bonnes et des mauvaises. Donc, ça sera un petit peu Et puis, évidemment, l'inénarrable débat sur les mises en scène d'opéra qui, de tout temps... Et je pense que le public... avec un très joli panel aussi. Enfin, je pense que ça peut être assez drôle. Voilà.
On a écouté également l'anniversaire de Bussy qui sera aussi mis en avant.
Voilà.
Avec une rencontre un peu particulière. Ouais.
Voilà, donc Jean-François Higel et Didier Good. Donc, oui, ce n'est pas forcément un duo si fréquent, malgré la notoriété des deux. C'est vraiment basé sur de l'improvisation et sur un programme, voilà, à partir, on va dire, de thèmes connus de Debussy, etc., sur lesquels ils vont improviser. Là encore, vraiment, je tiens à les remercier, et l'un et l'autre, parce que spontanément, ils ont répondu présent à notre invitation. C'est le concert de clôture de Musicora. C'est vraiment symbolique aussi, parce que voilà, je pense que dans ces deux artistes ont symbolisé aussi une forme de jeunesse, de dynamisme.
Oui, de pédagogie, puis d'ouverture de la musique classique vers autre chose. Et au-delà de ça, c'est de l'improvisation, c'est un peu de jazz, et c'est peut-être l'ouverture vers le jazz pour le prochain Musicora.
Voilà. Thank you.
Est-ce que vous avez finalement, au début, quand vous êtes... vous avez pris votre feuille de papier avec votre crayon, vous n'y avez pas trop de choses finalement à mettre ce que vous aviez. C'est vrai que l'avantage, c'est que de tout ce que vous venez de citer, il y a 360 degrés par rapport à la musique classique. Hein, les mélomanes, les musiciens, le disque, la production, le spectacle vivant, etc.
Bah, l'idée, c'était de représenter, enfin d'être exhaustif dans la représentativité, entre guillemets, de la filière classique. Donc on a essayé de travailler vraiment domaine par domaine pour que chacun puisse y trouver sa place et soit présent sur ce musicorama. Mais en parlant du concept de départ...
Non, le concept de départ, en fait, on a laissé à peu près 80%, 90% du concept de départ dans l'aventure. Mais on y reviendra. Ça, j'en suis sûre. Par contre, voilà, hier, on est en train de boucler les programmes. Et puis, là, vous avez pas mal de choses. Et puis, je me suis dit, mais bon, pourquoi avons-nous fait tout ça? Parce que finalement, on se retrouve avec énormément d'événements, très divers en effet. Et voilà, la présence de Klaus Hemann est, je trouve, assez extraordinaire dans un lieu comme ça. On organise deux journées professionnelles, vraiment sur inscription pour les professionnels, évidemment. Et donc, avec des contenus quand même assez pointus, une vingtaine de conférences, des speed meetings pour développer tout l'export, enfin... une grande partie de l'export pour aider les structures françaises à s'exporter. Voilà, des rencontres avec des personnalités comme Klaus Hemann, cette grande fête du disque, finalement, qui est un peu une nouveauté dans la filière aussi, qui est là pour valoriser l'identité de tous ces labels qui existent aujourd'hui, leur donner une place, même si le téléchargement existe aujourd'hui, le label, enfin le disque a sa place autrement, voilà, dans un rapport, on va dire, plus de collectionneurs, pourquoi pas, et puis avec des vrais fonds de catalogue présents, enfin voilà, qu'on travaille un peu plus sur l'identité et le contenu d'un label que sur, on va dire, ce qu'on trouve dans des magasins plus traditionnels.
Justement, cette fête du disque, c'est important, enfin le message par rapport à l'ensemble du salon.
Ouais, pour moi, c'était fondamental parce que de tout temps, moi, je viens, voilà, le disque, c'est aussi dans ma vie depuis toujours. Et je pense que dans la filière, il a toujours été absent en musicora. Et enfin, toujours.
Enfin, non, pas toujours, mais il a été absent ces dernières années, on va dire.
Et voilà, et puis les éditeurs n'avaient pas forcément ce réflexe-là. Et pour moi, tout visiteur qui va rencontrer l'artiste, qui va rencontrer le luthier, qui va rencontrer l'éditeur, doit rencontrer aussi la maison de disques qui accompagne l'artiste. Et donc, c'est ce 360 degrés autour de l'artiste qui m'intéressait. Et donc, si la filière disque était absente, je me disais, mais voilà, pour moi, il y avait une incohérence.
Donc, il faut préciser que ça aura lieu, cette fête du disque aura lieu sur le parvis voilà. du Palais Brongniart.
Et pour tout disque acheté, il y aura une entrée gratuite au salon.
Voilà. Donc,
quand vous avez commencé à faire savoir que vous repreniez Musicora, quelles ont été un peu les réactions des différents acteurs, que ce soit du spectacle vivant, du disque, etc. Est-ce que vous avez tout de suite senti que les gens vous ont signé tout de suite? Il y a eu des réticences? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des réactions différentes?
Je ne sais pas ce que tu as envie de dire, mais en tout cas, on sentait qu'il manquait ce rendez-vous annuel pour la musique classique. Ça, c'est ce qui nous a aussi motivés à le...
On a eu beaucoup d'appels... pour voilà, parce qu'on a mis beaucoup de temps tout simplement à pouvoir réellement y croire pour des questions budgétaires toutes simples, parce que voilà, c'est aussi un des sujets de Musicora, c'est qu'aujourd'hui voilà, je tiens même à dire qu'il n'y a pas un ministère qui est à nos côtés par exemple sur une opération comme ça, donc c'est sûr qu'on est sur une période électorale qui est pas du tout favorable, mais malgré tout je pense que toute la filière peut se féliciter aujourd'hui heureusement que nous avons les épaules solides, quoi, et qu'on y croit et qu'on a cette démarche là parce qu'aujourd'hui ça intéresse personne clairement, voilà. Ou très très peu de gens. Donc voilà, sinon on va dire les professionnels ont répondu présent, vraiment. Il y avait une véritable attente. Et puis après, il y a la question de doute, on va dire, mais qui est dans la nature humaine. Voilà, et puis qui regarde chacun. Nous, on est déterminés. Et puis,
on essaie de lui donner un nouveau format, une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Il faut le vivre pour être convaincu qu'on a rempli une partie de notre mission, en tout cas. Voilà. De faire revivre la musique classique dans ce qu'elle est aujourd'hui.
Vous avez fait un site internet également, mais c'est pas juste. Il faut faire un site internet avec juste une page où il y a juste écrit 11, 12 et 13 mai. Ça aussi, c'était important d'avoir un portail virtuel, mais qui soit solide et qui soit pas juste.
Oui, alors c'était important parce que j'ai toujours pensé qu'un salon, c'était bien, mais c'était virtuel. Et précisément...
C'est un réseau.
Et précisément, j'ai fait dans un site qui est soi-disant virtuel quelque chose de pérenne. Donc, je me suis...
Vous avez pris le problème dans l'autre sens.
On s'est dit, voilà, comment faire que ce salon puisse avoir une vie permanente ? C'est précisément en le créant sur Internet. Et donc, cette base de données qui a un boulot absolument insensé. Hein,
titanesque,
d'avoir identifié, voilà, on va dire, une grande partie, parce qu'on n'est pas non plus complètement exhaustif, mais des acteurs de la musique classique en France, j'espère de plus en plus en Europe, le développer dans ce sens-là, les répertorier, l'organiser, l'expliquer, voilà, qui fait quoi, quels endroits, comment fait-on de la musique aujourd'hui en France. Donc ça a été un gros travail. Et puis aussi l'alimenter avec... de l'éditorial qui est absolument pas de la critique, mais plutôt de l'éditorial qui est censé représenter la filière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un métier d'éditeur aujourd'hui de partition, qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'instrument, et tout cela, encore une fois, à travers des artistes. Donc, on peut retrouver Raphaël Pidou qui parle de la rencontre avec son instrument, avec son luthier, qu'est-ce que ça représente dans sa vie de musicien. On aura bientôt Eric Tanguy qui va parler de son éditeur, Michel Letièc de Sacla. Donc voilà, il y a vraiment, il y a aussi ce spectre-là. C'est se dire, ok, encore une fois, on reprend la même base, c'est-à-dire que c'est que des métiers qui ne fonctionnent parce que ce miracle des artistes est là, et comment chacun se perçoit, quels sont le tissage de ces liens.
Vous avez évoqué le jazz tout à l'heure pour l'après. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, il y avait plein de choses qui étaient restées malheureusement dans les cartons par rapport à ce que vous aviez envie. Alors, sans mettre la charrue avant les bœufs, et évidemment, cette édition n'a pas encore commencé. Mais est-ce que vous avez déjà quand même des envies vraiment pour la suite ?
Hein ? Oui, oui. On a des envies pour la suite. Les régions, en fait. Mmh. On aimerait beaucoup pouvoir essayer de transporter musique orale dans les régions, et que ça ne soit pas forcément un événement parisien ou d'Asie. Voilà. Mmh.
Voilà,
ça, c'est une de nos envies, qu'il soit itinérant, notre musique aura.
Pas regret, parce qu'on va dire qu'on ne peut pas tout faire sur une première édition, mais rendre ce musique aura plus interactif, plus lié en effet à du jeu aussi, enfin que le visiteur soit plongé comme ça dans un monde un peu plus... virtuel, oui.
Technologique et ludique,
un peu plus ludique aussi, et que la musique classique soit un peu plus semée de farces. Je pense que ça serait un de mes objectifs.
On essaiera au Café Cobuzz de faire plein de farces.
Voilà, c'est ça.
On vous souhaite bonne chance.
En tout cas, voilà, c'est une grande fête avant tout.
Voilà.
C'est ça qui nous anime aussi.
Donc on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts pour cette première fausse édition. Première édition pour vous, qui, je rappelle, donc, se tiendra le 11, 12 et 13 mai au Palais Brongniart, évidemment sur Cobuzz. Toutes les informations relatives au salon seront annoncées progressivement, et nous serons donc présents le jour J. Merci.
On vous attend, merci.
Thank you.
musicalpodcast.com. Rencontre par Marc Zisman.